Lierbe, mon votre invité ce soir dans ce studio, Nicolas Bay, député européen du Rassemblement National.
Bonsoir Nicolas Bay.
Bonsoir.
Carlos Ghosn s'est exprimé longuement cet après-midi. Il dénonce un coup monté. Est-ce que sa défense vous a convaincu ?
Bon, je n'ai pas écouté intégralement la défense de Carlos Ghosn, mais je lui reconnais au moins le droit de pouvoir s'expliquer, ce qu'il n'a pas pu faire pendant très longtemps. S'il a commis des infractions, y compris des infractions pénales, il devra en répondre, et c'est normal, devant la justice. Il n'est pas au-dessus des lois. Il ne doit pas non plus être en dessous. Il doit avoir la possibilité de se défendre. Et puis, je crois qu'il ne faut pas être naïf. C'est évidemment, l'affaire Ghosn est évidemment un épisode de guerre économique. Et tout le monde comprend bien que la justice japonaise, c'est un système judiciaire qui est respectable en tant que tel, mais qui a sans doute aussi ses défauts. Et il est quand même très probable que la justice japonaise n'ait pas traité avec impartialité Carlos Ghosn, quand on voit que c'est un système judiciaire qui aboutit à ce que 99% de ceux qui sont inculpés sont ensuite condamnés. Et on voit bien que derrière, il y a les intérêts de Nissan, derrière, il y a des intérêts économiques et financiers considérables.
Donc, intérêts de Renault de l'autre côté,
oui,
de la France.
Oui, bien sûr, exactement. Donc c'est un épisode de guerre économique. Il faut, je crois, l'analyser d'abord comme tel. Et puis ensuite, voilà, s'il devra répondre de ses actes devant la justice, c'est normal. Comme n'importe quel justiciable, mais il doit aussi pouvoir se défendre.
Alors parlons un peu aussi de la situation au Moyen-Orient. Cette nuit, il y a eu des missiles iraniens qui ont frappé des bases américaines, sans faire de blessés selon Donald Trump, qui ce soir répond par de nouvelles sanctions économiques contre l'Iran, mais pas de riposte militaire. Vous êtes soulagé de cette réaction du président américain ?
Oui, je crois que c'est assez rassurant. On voit qu'il y a déjà une petite désescalade. Tout le monde a bien compris que les frappes de la nuit dernière de l'Iran sur les bases américaines avaient un caractère plutôt symbolique. En réalité, Donald Trump s'est fait élire il y a maintenant 3 ans sur une ligne politique qui consistait à ne plus intervenir ou interférer partout sur la planète. Il faut reconnaître que son retrait en Syrie, son retrait programmé en Irak, eh bien s'inscrit donc dans ses engagements de campagne. La contrepartie, c'est évidemment d'être très ferme dans la défense des intérêts américains. Et tout le monde a en mémoire l'attaque de l'ambassade américaine il y a quelques années à Benghazi. Tout le monde a en mémoire, dans une histoire un peu plus ancienne, les otages à l'ambassade à Téhéran. Et donc évidemment, il a été extrêmement ferme dans la riposte à l'attaque contre l'ambassade américaine à Bagdad. Voilà. Pour autant, je pense que les conditions sont plutôt réunies d'une désescalade. Je crois que ce n'est pas l'intérêt de l'Iran de s'engager dans un conflit ouvert avec les États-Unis. Ce qui est navrant dans cette affaire, c'est
que
finalement...
Pas l'intérêt de l'Iran, pas l'intérêt peut-être des États-Unis, pas l'intérêt de la région et peut-être pas du monde de manière globale.
C'est évident, mais ce qui est navrant en tout cas, c'est qu'on voit qu'il y a des grandes puissances, les États-Unis en Irak, la Russie en Syrie, qui savent défendre leurs intérêts sur la scène mondiale. C'est la France et l'Europe, d'une manière générale, les nations européennes, qui sont finalement totalement inaudibles, incapables de se faire entendre, incapables de peser.
Et alors ce soir, justement, Donald Trump, il dit qu'il faut que les Européens quittent l'accord sur le nucléaire iranien. Est-ce qu'il faut faire ça comme le président américain le demande ?
Je crois que Donald Trump, il défend les intérêts américains. Ça tombe bien, il a été élu par les Américains à président. Mais à nous de défendre nos intérêts, à nous de ne pas être inféodés à d'autres grandes puissances. La France, elle a une voix qui porte, elle a malheureusement une voix qui porte peu ou plus aujourd'hui, mais qui pourrait porter, qui souvent est attendue sur la scène mondiale. Notre voix diplomatique, notre voix militaire, on est une grande puissance, mais aujourd'hui
mais on
voit
que... Mais on sort ou pas de l'accord sur le nucléaire iranien, pour vous
Non, moi je crois qu'on a intérêt à avoir des relations, y compris économiques, avec l'Iran. Que les États-Unis, parce qu'ils ont d'autres alliés, l'Arabie Saoudite en particulier dans cette région, souhaitent continuer une guerre économique avec l'Iran, c'est la position américaine. Nous, notre intérêt à nous Français, l'intérêt des nations européennes, ce sont des intérêts différents et il y a une compétition mondiale, il faut être capable de la mener, cette compétition mondiale.
Alors on va revenir à l'actualité française avec la réforme des retraites, nouvelle journée de mobilisation demain. Laurent Berger de la CFDT dit ce soir, on est encore loin d'un accord, qu'est-ce que vous dites au gouvernement ?
D'abord on n'y comprend plus rien. Finalement, cette réforme des retraites, progressivement, à mesure des négociations, etc., on ne comprend plus exactement ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, la preuve, c'est que dans les matinales, vous avez les ministres eux-mêmes qui se contredisent entre eux sur certaines dispositions ou certaines mesures techniques. Aujourd'hui, on voit bien que Emmanuel Macron, au début, il a essayé de focaliser le débat sur les régimes spéciaux pour éviter une mobilisation des Français contre sa réforme. Le vrai enjeu, il est évidemment ailleurs. Il y a des régimes spéciaux qui sont sans doute datés, qui pourraient être supprimés. supprimé ou remis en cause. Mais l'essentiel n'est pas là. Le vrai enjeu, c'est le passage à un système par points. Et ce passage à un système par points, il permettra ensuite de diminuer le montant des pensions. Et c'est ça l'objectif qui est derrière. C'est là-dessus qu'il faut évidemment se battre.
Alors, vous dites que le gouvernement n'est pas très clair. Mais alors, vous, vous réclamez quoi au Rassemblement National ? Retrait de la réforme
Nous, ce que nous disons, c'est simple, c'est que si on veut avoir un système par répartition que nous voulons préserver, nous, dans la durée, eh bien, pour l'équilibrer, c'est la natalité et l'emploi qui sont les deux leviers principaux.
Donc, si, on commence tout
si
à zéro.
Si on veut simplement maintenir un haut niveau de cotisation avec une baisse des pensions et une augmentation de la durée de cotisation, on ne réglera rien. Et on voit, moi, c'est ce qui m'inquiète dans ce dossier, c'est qu'on voit finalement que certains vont réussir à préserver des régimes spéciaux, certains vont, parce qu'ils sont les plus brillants ou parfois les plus brutaux, vont obtenir quelques avancées ou quelques concessions du gouvernement, mais les grandes victimes, ça va être le Français du milieu, c'est-à-dire le salarié du privé, souvent, qui n'est pas assez pauvre pour toucher les minima ou les allocations sociales, n'est pas assez riche pour capitaliser et se constituer un patrimoine et donc à la clé une retraite plus importante, et qui, lui, finalement, est souvent le premier à payer et souvent le premier à subir les réformes.
Alors, Nicolas Bay, vous prenez la clarté, vous allez donc peut-être, sans doute, pouvoir nous éclairer. Est-ce qu'au Rassemblement National, vous soutenez les grévistes ou pas ?
Non, mais ce que nous avons dit depuis le début, c'est que nous
Marine Le Pen, le 5 décembre, dit qu'elle soutient sans réserve
les... Je vous réponds, nous sommes opposés, totalement opposés, pour les raisons que je viens d'évoquer, à la réforme d'Emmanuel Macron. Nous avons dit, et Marine Le Pen la première, d'ailleurs, au début du conflit social, que la grève, et plus encore les blocages, ne sont pas le meilleur moyen de mobiliser les Français. Souvent, la CGT et quelques autres organisations outrancières facilitent la tâche du gouvernement.
Certains de vos collègues du Rassemblement National défilent et donc dans les mêmes rassemblements que la CGT.
Mais vous savez, dans les rassemblements, il y avait tout le monde. Il y avait aussi des avocats, il y avait des salariés du public, des salariés du privé. Mais en revanche, je pense qu'il y aurait d'autres moyens, peut-être un peu plus modernes, un peu moins archaïques d'agir.
C'est archaïque, la grève ?
Oui, je pense en tout cas que les blocages qui pourrissent la vie des Français, c'est archaïque et c'est assez inefficace et ça rend service à Macron.
Et donc vous dites aux grévistes, 35 jours de grève, il faut arrêter ?
Non, je dis simplement qu'il faut combattre politiquement, combattre sur le terrain, manifester bien sûr, pour ceux qui souhaitent manifester, c'est un droit fondamental contre cette réforme, mais je pense que avoir des organisations syndicales peu représentatives qui suscite la défiance des Français, qu'on érige en première ligne comme les principaux interlocuteurs du gouvernement, eh bien c'est évidemment l'intérêt du gouvernement.
C'est un petit peu une position d'équilibriste pour le Rassemblement National, soutenir la mobilisation contre la réforme, mais en même temps pas franchement soutenir les grévistes.
Non, attendez, c'est pas on n'est pas dans un schéma simpliste. Il n'y a pas d'un côté, on ne doit pas faire un choix définitif entre Macron et la CGT. moi, je refuse cet écueil. Oui, nous devons avoir un vrai système de retraite par répartition, mais oui aussi, on ne doit pas avoir des syndicats sclérosés. Il y a beaucoup de pays européens qui ont un paysage syndical diversifié, des syndicats qui ne sont pas des courroies de transmission des partis politiques, qui ne sont pas sclérosés comme c'est le cas en France.
Eh bien, merci beaucoup Nicolas Bay d'avoir été mon invité.
Merci.